La table des gourmands. Sandra.
Ce soir, à la table des gourmands, j'ai le plaisir de recevoir la comédienne Martine Corba. Ensemble, et jusqu'à 19h, nous allons bien évidemment parler de cuisine, mais nous parlerons surtout d'une femme époustouflante, tant par sa modernité que par ses idées. Une artiste qui mêla tout au long de sa vie souffrance et passion pour sa peinture. Une icône mexicaine qui a réussi, lors de son parcours, à glorifier les douleurs et les secrets de la vie. Un parcours qui a traversé les frontières. Frida Kahlo est à l'honneur ce soir à la table des gourmands. Elle est depuis le début du mois interprétée par Martine Corba dans la pièce Frida Kahlo, Autoportrait d'une femme, qui se joue en ce moment en Suisse romande et qui réunit la compagnie de l'Hydre Folle pour un spectacle musical à ne manquer sous aucun prétexte. Ce soir, couleurs, senteurs et saveurs du Mexique sont au rendez-vous.
La table des gourmands. Sandra.
Martine, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, merci.
Martine Corba, vous êtes comédienne, metteur en scène et directrice de la compagnie L'Hydre Folle. Vous avez avec Yvan Ries mis en scène Frida Kahlo, Autoportrait d'une femme de Rhoda Jamis. Trois projets sont menés entre 2017 et 2019. Un triptyque théâtral, premier volet Frida la douce, volet central Frida Kahlo, Autoportrait d'une femme et un troisième volet qui devrait voir le jour en 2019, qui s'adressera à un public plus jeune. Ce sera La poupée cassée.
Fin 2018.
Frida est une icône, c'est un symbole. Est-ce que vous êtes d'avis que lorsqu'on se penche sur sa peinture, sur sa vie, on ne peut que tomber en admiration? Et est-ce que c'est ça qui s'est passé lorsque vous l'avez découverte?
Alors ça, c'est sûr. Alors, sans hésiter. Parce que quand on... Les premières fois que j'ai vu... Enfin, les souvenirs que j'ai des tableaux de Frida Kahlo...
Vous étiez petite. Hein.
J'étais petite. J'étais même petite. Je pense que j'imagine que j'avais 6-7 ans. Et puis, je fais l'expérience sur mes filles maintenant qui ont cet âge-là. Et c'est incroyable. Montrer Frida Kahlo aux enfants, c'est magnifique. Parce que les enfants ont des tas de choses à dire et à sortir de ces tableaux. Et je pense que c'est... À quoi c'est dû? Les symboles, j'imagine, les symboles qu'elle utilise, les couleurs qu'elle utilise, la culture qui est véhiculée dans les tableaux. Ça, c'est clair qu'il n'est pas la nôtre, ça c'est sûr.
Alors vous l'avez découverte petite chez vos grands-parents, si je ne me trompe.
Oui.
Et c'était un choc parce que, c'est clair, c'est beau comme vous en parlez, on en parlera plus tard aussi par rapport à la jeunesse et au tableau de Frida. Mais comme c'est de la peinture qui est plutôt suppliciée, c'est assez difficile comme ça, brut de décoffrage. Vous découvrez Frida Kahlo, on vous explique pas forcément, vous voyez ces tableaux chez vos grands-parents, vous réagissez comment? Vous n'avez pas eu peur? Vous n'avez pas...
Non, mais j'ai quelques saveurs comme ça qui me restent de ces couleurs et de peut-être cette surprise, j'imagine. Je l'interprète aujourd'hui, hein. C'est plutôt des souvenirs. Non, je dirais pas bouleversé, non. À cet âge-là, c'est plutôt une surprise, un étonnement. Quant à une femme avec nue, avec des clous, du sang, c'est étrange quand même. et puis après, ça passe, on y pense plus. C'est juste des images qui restent et qu'on retrouve après avec le temps, parce que j'ai toujours été liée à l'art, ça c'est clair.
Alors ce petit bout de femme d'environ 1m60 était une vraie résistante à tout niveau. Est-ce que c'est aussi cette raison qui vous a amené à la mettre en scène?
C'est une des raisons, je dirais. On dit toutes les femmes en une, ce serait elle. Il y a bien sûr la résistance, le fait d'être un petit bout de femme qui a marqué comme ça et qui a traversé toutes ces époques, non pas seulement à travers une Frida Mania, ça m'intéresse finalement assez peu, mais plutôt quant à, en 1920-30, cette volonté de montrer son travail, de résister aussi politiquement, ça c'est sûr. Hein. On est quand même à l'époque de la Révolution mexicaine, 1920. Donc il y avait une effervescence comme ça, folle, qui fait que que ça a marqué les esprits, ce petit bout de femme, oui, c'est sûr.
Et elle, alors, justement, pendant cette révolution, ce qui est hyper drôle, c'est qu'on n'a pas la date exacte de sa naissance.
Oui.
On en parle souvent, c'est parce que même ça, dès le départ, elle a décidé de changer sa date de naissance.
Ça, c'est clair, oui.
Ce qui montrait déjà ce tempérament de femme incroyable. Alors, ce n'est pas rien que d'interpréter le rôle de cette femme, hein, qui est plein de femmes en une. Est-ce que vous avez dû, Martine, vous glisser dans sa peau, comprendre ses douleurs psychiques et physiques pour vous mettre dans la peau de l'artiste?
C'est, je dirais pas jusque-là, évidemment, je n'ai pas sa vie, je n'ai pas vécu ses accidents. Par contre, on va pas chercher cette douleur-là. Par contre, elle fait écho à, je dirais plutôt à, personnellement, à la volonté de continuer ce travail, le travail artistique que je mène, d'être porteuse de projets, meneuse. D'être vraiment dans la création et l'imagination, quand même une grande partie de mon temps, d'imaginer un spectacle et de le présenter à un public, tout ça, forcément ça fait écho, être femme artiste aujourd'hui, voilà. Après, tout ce qui concerne la douleur, je dirais le fait de vouloir des enfants, enfin, j'ai eu la chance d'en avoir elle a fait un certain nombre de fausses couches, c'était impossible. Donc ça, on est toutes touchées par cela. La question de l'avortement, la question de la fausse couche, de la douleur féminine, forcément qu'elle fait écho. On est entouré par des amis, nous-mêmes, on l'a forcément peut-être vécu une fois, donc voilà.
Alors Frida Kahlo, artiste, hein, est cataloguée, répertoriée en histoire de l'art, souvent comme étant surréaliste, enfin elle l'était, hein, ils le disent, mais alors que elle, Frida,
a toujours dit... Ne pas dire ça.
Non, elle a toujours dit, là c'est André Breton, sortez de mon corps, elle a toujours dit qu'elle peignait sa réalité, une réalité que vous mettez donc en scène, une réalité douloureuse mais à la fois colorée, comme les saveurs du Mexique. Est-ce que vous saviez tout de suite dans quelle lignée vous alliez prendre pour cette mise en scène?
Oui. Très très vite, parce que je me suis alliée avec une plasticienne, Yangali Kolbrenner, qui est avec moi sur scène, notamment, hein, parce qu'on est, quand même 5 sur scène. Et puis elle, c'est le pilier du spectacle, c'est-à-dire c'est tout le projet, c'est qu'elle va, sans parler, être mon double Frida Kahlo, donc une sorte d'ami imaginaire, de fantôme, comme ça, qui erre sur scène et qui sculpte au fur et à mesure de l'avancée du récit. Les tableaux de Frida Kahlo. Donc on a choisi ensemble un certain nombre de tableaux, d'objets qu'on a reconstitués et qu'on mène à travers le récit.
Alors, plasticienne, un musicien, comédien, tous sont réunis pour cet autoportrait de Frida. Alors, quand on apprend que vous avez une plasticienne à vos côtés qui joue, on se dit, oui, ça coule de source avec tout.
Une mise en abîme extraordinaire.
Et c'était pour vous une évidence?
Oui. Alors c'était une évidence. Ça fait d'autant plus écho à la vie de Frida Kahlo, à l'hommage qu'on lui fait quand même, d'avoir quelqu'un qui sculpte la matière comme elle le faisait. Ce que je fais moi d'une autre manière à travers la mise en scène et l'interprétation de Frida Kahlo, c'est sûr.
Alors justement, la mise en scène, vous aviez déjà votre idée, vous aviez votre lignée. Du coup, pour l'interprétation aussi, c'était plus facile de rentrer dans le
personnage. Alors là, je m'allie à Yvan Ries, qui est vraiment mon complice artistique, qui est vraiment là pour mener la direction d'acteur, je dirais, musicale aussi. Et lui m'a dirigé sur des choses, bien sûr qu'il y a la Frida Kahlo qu'on imagine très forte, très juste par rapport, il y a toute une scène autour des surréalistes et en des Bretons où elle s'en prend à tout le pari intellectuel, donc
ce
ça
fait,
y va
hein, ce qu'elle a fait.
Ça y va à fond,
ça dégomme,
et Frida, je la fais bien sûr comme ça, mais aussi d'une autre manière, et là Yvan Ries m'a beaucoup aidé pour chercher plus l'intimité, le dévoilement de soi d'une manière beaucoup plus douce, beaucoup plus personnelle.
La table des gourmands. Jusqu'à 19h.
Et jusqu'à 19h, nous sommes en compagnie de Martine Corba, comédienne, metteur en scène et directrice de la compagnie de l'Hydre Folle, qui en ce moment est en tournée en Suisse romande pour présenter son spectacle musical, Frida Kahlo, autoportrait d'une femme. Alors, il existe, Martine, énormément de documentation et de livres concernant la Kahlo. Vous avez choisi le livre de la Mexicaine Rodas Jamis, alors qu'en 2002, Julie Taymor avait choisi la biographie de l'auteur Aiden Herrera pour mettre en scène la talentueuse Salma Hayek dans le rôle de Frida. Ça n'a pas dû être facile de faire ce choix. Qu'est-ce qui vous a aidé à choisir parmi toutes les publications concernant l'artiste ?
Alors, étonnamment, si, ça m'a paru évident en lisant ce livre, parce que c'est un livre qui alterne, le livre de Raouda Jamis, qui alterne les monologues intérieurs, c'est-à-dire vraiment la parole de Frida Kahlo à la première personne, au jeu. Donc elle raconte vraiment ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, d'une manière très poétique. Et ça m'a plu. Et donc elle alterne ça avec des moments plus dialogués, des chapitres donc plus dialogués ou plus biographiques. Donc moi, j'ai décidé de prendre cette œuvre qui fait quand même 300-400 pages, de l'adapter, j'ai demandé les droits bien sûr, en l'adaptant, de l'imaginer pour la scène, ça c'est sûr. Donc de travailler plus sur des scènes dialoguées, tous les hommes, notamment avec tous les hommes masculins qui ont jalonné la vie de, qui ont entouré Frida Kahlo, donc joué par Diego Todeschini quand même, pas des moindres, ouais, jurassien aussi. Et puis, que Diego Rivera ait une place, que Trotsky, Breton et d'autres, vous verrez.
Alors dans la pièce, vous ne parlez pas que de la femme révolutionnaire, hein, la femme goûte à tout, de l'épouse, de la Frida amoureuse, aimante, belle et monstrueuse. Vous parlez évidemment de son art, vous l'avez dit tout à l'heure, plus précisément de ses tableaux, ils sont nombreux. Alors il y a la colonne brisée, la fameuse que vous avez vue petite, les cheveux courts, les deux Frida pour les plus connus. Desquels parlez-vous dans la pièce? Parce que là aussi vous avez dû faire des choix. Ils sont nombreux, ces tableaux, donc vous avez dû, alors sans trop en dévoiler, mais non. Est-ce que là aussi c'était... Comment je fais?
Ça s'est fait vraiment tout en... Vous savez, on travaille sur cette en travaillant sur cette adaptation d'œuvre pour la scène. On fait... Moi, je me pose à mon bureau et je fais un gros travail d'imagination. Donc, vraiment, tout en ayant les tableaux avec moi dans les livres, je me disais, mais quel tableau je vais pouvoir insérer pour que visuellement, on arrive à en faire quelque chose. C'est difficile à dire sans l'avoir
par rapport
vu.
Au public aussi.
Mais par rapport au public et qu'ils comprennent suffisamment, il ne s'agit pas de montrer tous les tableaux de Frida Kahlo. Il y en a que j'aurais voulu montrer, mais qu'on a décidé de ne pas montrer, mais de dire, par exemple, tout à coup Diego Todeschini le raconte, mais on ne le montre pas. Mm-hmm. Par exemple, une femme, Frida, qui accouche d'un enfant mort quand même. Donc ça, on a décidé de ne pas le montrer.
C'est mieux.
Mais il le dit. Parce que ça fait quand même partie de sa douleur et de sa vie. Donc il le raconte et c'est très beau comme ça. Je donne un autre exemple, mais je ne le décris pas trop parce que pour ceux qui viennent voir le spectacle, ça serait dommage. Mais on a choisi l'hôpital Henry Ford. Donc c'est Frida qui est reliée, qui est dans son lit d'hôpital et qui est reliée à différents objets. Par des fils rouges, des objets très symboliques. Il y a un enfant, de nouveau, un bassin de femme, il y a un escargot.
Il y a un cœur.
Voilà, il y a une orchidée. Donc, il y a différents éléments qu'on a représentés en trois dimensions, à notre manière. Il ne s'agit pas de représenter le tableau tel qu'il est, il s'agit de le transcender. Ça, c'était le point de départ et l'accord avec la plasticienne.
Alors, des tableaux assez impressionnants par leur format également, un format petit, hein, souvent chez Frida, puisqu'elle a principalement peint couché suite à son grave accident de jeunesse. Comme on parle de format, est-ce que ce n'était pas trop dur également pour vous de ne garder que l'essentiel pour une pièce, de ne pas vous disperser, parce qu'il est riche ce parcours de Frida Kahlo, donc de vous dire, bon, il va quand même falloir le mettre dans un certain format, et puis de... Est-ce que ce n'était pas plus dur que si vous aviez pris une Camille Claudel ou une Séraphine Sans, c'est pas péjoratif, hein, donc vraiment.
Non, c'est difficile parce qu'il y a quand même tout un parcours en quoi. Elle est morte à 47 ans. C'était quand même toute une vie avec beaucoup d'événements, que ça soit amoureux, politique, des rencontres. Il faut bien se dire que Frida Kahlo, elle a rencontré quand même des intellectuels, artistes parisiens à l'époque en 1930. Imaginez. Rencontrer Picasso,
l'Amérique,
Max Ernst,
hein,
Vassily Kandinsky, c'est quand même juste incroyable, ce petit bout de femme. Donc, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, je pense que j'ai dit beaucoup de choses déjà. On a fait des choix également, parce que dans tout ce que je voulais dire, on a dû couper, parce qu'on ne peut pas faire une pièce de 5 heures. Donc, ce sera 1h30 avec des choix. Les choix visuels,
textuels. Ça n'a pas été trop dur, c'était pas trop un...
C'est difficile, mais je crois qu'à un moment donné, vous savez, avec toute une équipe artistique autour de soi, la scène parle, on dit beaucoup. Mais oui, c'est vrai, quoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas représenter ou qui sont des redites, qui ne sont pas intéressantes. Donc, ensemble, on a fait des choix après mes choix.
Vous avez joué à Genève dernièrement, vous en sortez, vous avez joué donc au théâtre
du Galpon.
Oui. Et puis alors les gens qui vous ont vu en Frida ont vraiment eu l'impression de passer un moment avec l'artiste. Alors comment fait-on lorsqu'on est autant imprégné pour retrouver la réalité du quotidien? Je ne parle pas de votre monocle sourcil ni de votre moustache.
On n'a pas le choix hein, quand on a deux enfants en bas âge.
Maman n'est pas Frida, Frida n'est pas maman.
Oui, non, alors là, on vit, ça c'est sûr qu'on vit en tant qu'artiste un peu une schizophrénie. Je crois que tous mes collègues le disent, hommes, femmes, père, mère, on le dit tous, ça reste quelque chose qui n'est pas évident. On a des horaires, c'est sûr, très différents d'un quotidien. On n'a pas de routine. Mm-hmm. Mais il s'agit de mener d'avoir une belle structure et d'avoir la tête sur les épaules, ça c'est sûr. Donc voilà. Et j'ai une maman qui m'aide beaucoup, que je salue, qui est à Genève en ce moment.
Donne le bonjour à votre maman. Frida Kahlo est une icône au Mexique. Depuis plusieurs années, elle est partout dans le monde. On trouve, vous en avez parlé, de la Frida Mania. On trouve des boutiques Frida, des vêtements, des bijoux, des accessoires. Elle a vraiment débarqué il y a quelques années, cette Frida Mania. Et est-ce que tous ceux qui viennent vous voir connaissent la Kahlo ou est-ce que dans le public, vous en avez rencontré qui ne savaient pas du tout qui était Frida Kahlo?
C'était très partagé. À Genève, on avait un public de fans, ça c'est sûr, de fans femmes.
J'allais vous en parler également. Hein.
Et puis donc voilà, qui s'y sont complètement retrouvés parce qu'ils sont venus bouffer du Kahlo, ils en ont eu. Par contre, pour bien sûr qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes, qui ne connaissent pas du tout Frida Kahlo, encore moins Diego Rivera, complètement méconnu. Hein, cet
mais
homme.
C'est incroyable.
Incroyable, pourtant son mari, un monstre mexicain.
L'éléphant.
Un Michel-Ange mexicain, donc complètement inconnu ici. Hein. Frida a pris toute la place, mais je crois qu'on entre dans une, c'est ce qu'on m'a dit, hein, dans un voyage, une fresque autour de cette femme. On prend le public quand même gentiment par la main et on le mène dans ce voyage donc musical. Hein, vous l'avez dit. C'est aussi, il y a de la musique avec deux musiciens magnifiques qui amènent, Pierre Homer, Julien Israélian, qui amènent énormément dans lequel les gens se retrouvent aussi. Hein, donc il n'y a aucun souci. Vraiment, c'est pour un public très, très vaste, en fait. Très vaste, de tous les âges et de tous les horizons.
Alors, j'allais vous demander, parce que votre pièce donc, s'est jouée jusqu'à avant-hier au Théâtre du Galpon à Genève, c'est un succès. Vous la jouez ce vendredi au Forum du Château, c'est complet malheureusement, mais la tournée continue. On pourra vous voir jusqu'en 2019 hein, et plus encore.
Oui.
Qui sait, on ne sait jamais. Je dis non, mais vous avez prévu donc, tous ces formats, toutes ces pièces, donc on va encore en entendre parler.
Oui, celui-là, on va le reprendre dans le Jura, notamment aussi à Saint-Imier en mars 2019. Et ailleurs en Suisse romande, et j'espère encore ici dans la région, un peu entre eux ou ailleurs.
Alors, vous en avez parlé, hein, c'est le public, il y a de tout, mais beaucoup de femmes hein, qui parfois, c'est pas qu'on s'identifie à Frida Kahlo, mais comme vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, il y a une part de Frida qui est en nous. Le regard des hommes, il est différent hein, sur le personnage de Frida Kahlo, sur son art. Les hommes sont beaucoup plus critiques. Un peu dans le mauvais sens du terme, parce que c'était une femme comme les hommes en rêvent finalement, mais les hommes en ont peur parce qu'elle était, s'ils prenaient les décisions, elle était. Il y avait quand même, vous en avez vu des hommes dans le public, il y en avait, mais est-ce que ce sont des hommes qui accompagnaient leur épouse ou leur moitié ou est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes, les hommes, voir Frida Kahlo?
C'est très varié. Bien sûr qu'il y avait un public. Parfois, certains soirs très féminins, et avec bien sûr que les femmes, quand même, amènent leurs hommes, mais non, pas seulement. Heureusement, non, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus par curiosité, qui s'y sont aussi retrouvés. Hein. Je pense que les hommes aussi se retrouvent en Frida Kahlo, au niveau de la force, de l'engagement politique, de la norme aussi, parce qu'elle avait. D'ailleurs, les milieux féministes s'en sont beaucoup emparés dans les années 70, les milieux gays également, hein, les homosexuels. Donc, parce qu'il y avait aussi une ouverture d'esprit de la part de cette petite femme assez inouïe, donc qui cassait les normes. Donc, ça. voilà, forcément tout le monde s'y retrouve.
Et d'ailleurs, vous la mettez en scène avec un homme, hein, Yvan Ries. Est-ce que quand vous lui avez parlé de ce projet, est-ce qu'il a tout de suite croché?
Complètement, c'est la troisième collaboration avec lui, on se connaît bien, c'est vraiment un complice artistique. Qui connaît aussi vers quoi, avec cette compagnie, j'ai envie d'aller. Ce sont un peu mes sujets de prédilection et mon univers esthétique, artistique. Donc, il m'accompagne avec ça, il adhère et il me dirige là-dedans aussi. Parce que si je suis en scène, j'ai besoin de quelqu'un en face. Et c'est très bien parce qu'il a aussi cette sensibilité plus masculine. Il connaît mon équipe, il travaille avec tout le monde, donc c'est magnifique.
Martine, on va quitter un moment la grande Frida Kahlo, mais on va rester au Mexique, du moins dans les saveurs mexicaines, puisque vous êtes à ma demande venue avec votre recette, une recette traditionnelle de là-bas que vous avez pu goûter, et même plus, hein, lors de votre séjour dans la région d'Oaxaca. Vous nous proposez donc, Martine, la recette ce soir du...
Mole negro.
Faites-nous saliver, s'il vous plaît, Martine.
C'est parti?
Oui, c'est parti.
Alors,
c'est
effectivement, lors de mon voyage au Mexique, j'ai rencontré Eli, un vieux monsieur, paysan, et Doria, et toute sa famille, parce qu'ils sont très nombreux, dans une granja, donc une petite ferme, une petite grange, comme ça, au fin fond de Oaxaca, de l'état de Oaxaca. J'étais donc avec ma petite famille. Et puis, on a fait avec eux le mole negro. Donc, le mole negro, ça vient de mole, de moudre. Et puis, il y a plein de mole qui existent au Mexique, et notamment dans cet état-là du Mexique. Mais le mole negro, c'est une sauce. D'abord, c'est une sauce très onctueuse, très savoureuse, qui est noire, justement, comme le dit le nom, negro. Donc, j'ai été chercher d'abord sur Internet, c'est drôle, pour trouver la recette. Et c'était tellement compliqué, avec tellement d'ingrédients, alors que là-bas, avec les gens de là-bas, ces paysans, cette petite ferme, fin fond du Mexique, on a fait avec des choses de base. C'était très simple, en fait. Ça prend du temps, mais c'est très simple. Donc, d'un côté, vous grillez votre... Je l'annonce,
allez-y,
j'ai jamais fait ça, c'est incroyable.
Eh bien, c'est parti,
d'un
c'est un
côté,
bel exercice.
D'un côté, vous grillez votre émincé de poulet ou de dinde, bien grillé. Voilà. Et nous allons préparer cette petite sauce onctueuse noire, negro, parce qu'elle est à base de chocolat. Donc, vous grillez de l'ail et des piments coupés en petits morceaux, vous mouillez avec de l'eau, vous laissez poser. Vous faites une autre petite mixture à côté, vous grillez dans l'huile les amandes, les raisins secs, le thym, le sésame, vous grillez tout ça, vous mixez également. Et puis, ensuite, vous réunissez les deux petites préparations avec du clou de girofle, un bouillon de poule. Vous remixez tout ça, vous prenez vraiment bien le jus, hein, de tout ça. Hein. Passez le mix, comme on dit. Je ne sais pas, ça doit être ça.
Mixer, voilà.
Ouais. Donc, prenez ce jus de cette grosse substance et puis vous la faites chauffer avec du chocolat. C'est toute la technique, ça donnera la couleur. Ensuite, donc vous laissez reposer cette petite chose, vous mixez à nouveau, mais d'autres choses, du sésame, des tomates, voilà, et que vous mélangez à ce jus. Et puis, pour bien lier tout ça, vous mettez de la mie de pain avec un petit peu d'eau, vraiment.
Donc,
ail, chocolat, raisin sec, piment, graines de sésame, tomate, thym, amande, clou de girofle, mie de pain, alors que sur Internet,
effectivement,
je pense qu'il y avait...
la liste était longue.
La liste était longue. Donc tout ça, ça donne une sauce très onctueuse avec votre émincé de poulet et des tortillas, bien sûr. Et
évidemment. Alors, on la retrouvera, cette recette, demain sur les sites d'RTN, rjbrfj.ch, en plus de l'intégralité de notre rencontre. Vous la faites souvent, cette recette?
Non, pas du tout, parce que ça prend un peu de temps. Il faut se mettre en équipe pour faire ça. Il ne faut pas être seul dans son coin. Non, il faut être toute une équipe et puis mettre la main à la pâte, donner aux gens, voilà, comme il y a plusieurs étapes, voilà, c'est plus sympa. Et préparer les tortillas aussi ensemble.
Alors, des spécialités des recettes, Jean-Marc Soldati en cuisine, lui, toute l'année, puisqu'il a fait de sa passion son métier. On l'accueille ce soir pour une recette de saison. Tout de suite, c'est de bon goût.
C'est de bon goût. Jean-Michel.
Jean-Marc Soldati, l'asperge, on l'a découvert ces derniers temps. Elle peut avoir cette certaine amertume. Elle a un goût bien spécifique. Donc, des recettes aussi bien spécifiques. Il y a une manière parfois de marier les goûts qui peuvent sublimer ce légume.
L'asperge, on peut la manger de dizaines de façons. Donc, toujours, de toute façon, toujours blanchie à l'eau salée. L'asperge verte, il faut la refroidir tout de suite dans de l'eau glacée. Par ce sens-là, elle va devenir grise, hein, comme un légume vert, comme un haricot, comme un pois mange-tout. Ensuite, on peut la manger, la déguster nature, juste avec une petite touche de beurre fondu sur la pointe, accompagnée d'une mayonnaise, d'un jambon cru, ça c'est la façon la plus classique. On peut l'accompagner d'une sauce mousseline, une mayonnaise dans laquelle on aura incorporé un peu de crème chantilly, un peu de jus de citron, qui va l'alléger et la rendre aussi plus goûteuse. On peut la faire gratiner. C'est aussi très très bon. Les Italiens la font, ils enveloppent l'asperge avec une tranche de jambon cru. Ils font comme une roulade, comme on ferait une endive au jambon, mais là c'est l'asperge avec du jambon cru. Et sur les pointes, ils mettent un petit peu de chapelure, de beurre noisette et de blanc et jaune d'œuf. Et ça vient gratiner. C'est simplement délicieux. Alors vous avez le croustillant du jambon qui a été gratiné et puis la chapelure.
Gratiné, donc on les met au four un moment.
Alors c'est pas gratiné, c'est juste sous la salamandre saisir le jaune d'œuf avec la chapelure. Et vous avez quelque chose de très croustillant. Autrement, on peut la faire gratiner avec une sauce mornay. Donc on peut prendre, il y a plusieurs façons de faire. Chez nous, on l'a fait avec une sauce hollandaise. Donc émulsion jaune d'œuf, beurre, avec une sauce mornay, donc style un peu béchamel, du fromage, et puis gratiné au four. Donc
un peu de fromage.
Un tout petit peu de fromage, ou un tout petit peu de parmesan. Parmesan, oui, ça va très très bien. Ça lui donne un petit... Mais très peu, hein. Faut toujours essayer de garder l'équilibre quand on fait ce genre de choses. Ça serait dommage de la masquer avec un fromage trop fort. Et la quantité, c'est tout dans le dosage. On en a parlé une des semaines précédentes, accompagné des moris, c'est simplement délicieux. Une cassolette d'asperges et moris, c'est délicieux et tout simple à faire.
La sauce hollandaise ou la béarnaise, tout le monde sait faire ses sauces, mais il y a peut-être un petit truc encore pour la sublimer. C'est ce que nous allons découvrir la semaine prochaine avec Jean-Marc Soldati.
La table des gourmands, jusqu'à 19h.
Une table des gourmands aux saveurs du Mexique. Nous sommes en compagnie de Martine Corba, comédienne, metteur en scène et directrice de la compagnie de l'Hydre Folle. Une compagnie que vous pourrez retrouver dès vendredi à Delémont, Forum du Château. Mais par contre, non, c'est pas vrai ce que je dis, puisque vous, je suis un guichet fermé, c'est un peu ballot. Vous êtes dans toute la Suisse romande pour Frida Kahlo, Autoportrait d'une femme. Et vous serez le 5 mai à Seigne-Léger, donc pour tous ceux
au qui Café du Soleil,
pas,
ouais.
Au Café du Soleil. C'est ça. Vous serez également le 15 mai du côté d'Yverdon-les-Bains au théâtre, le magnifique théâtre de l'Échandolle, et vous serez également à Lausanne, mais pas que, vous serez aussi du côté de Saint-Imier.
Donc, Saint-Imier, ça sera l'année prochaine en tournée, en mars 2019 on reprend le spectacle, donc là il y a un certain nombre de dates, et à Lausanne c'est le 17 mai avec une supplémentaire le 18 mai déjà.
Des dates qu'on retrouvera sur le site demain pour tous les gens qui sont intéressés à venir vous voir en Frida Kahlo. On parlait cuisine tout à l'heure, vous nous avez amené la recette qu'on retrouvera également demain sur nos sites du Mollet Negro. Quel genre de cuisinière êtes-vous?
Oh mon Dieu. Une piètre cuisinière, malheureusement. Non, j'aime manger, j'aime bien faire la cuisine, mais j'ai peu de temps pour faire la cuisine. C'est terrible. Donc, je fais des choses très simples. Très, très simples pour mes enfants. Je dois dire que j'ai un compagnon qui aime faire la cuisine et qui cuisine magnifiquement et qui le fait avec vraiment beaucoup de plaisir. Donc, je n'ai pas honte à le dire, il cuisine plus que moi. Mais bon, il a une mère cuisinière, hein, donc.
Vous êtes tous les deux. Vous êtes tous les deux du Jura. Vous faites des spécialités jurassiennes en cuisine ou bien.
Ça m'est arrivé de faire cette année d'ailleurs des toché avec la recette de ma maman, qui était pas mal. pas mal. Mais,
mais
ça,
pas au même goût que celui de maman.
C'est pas le même goût que, non, ça c'est clair, que les grands-parents et ma maman. Bien sûr, on aime manger les spécialités quand on revient chez nous, on va dire. Oui. Là où on a vécu, donc voilà, mais on cuisine pas forcément, ouais, non.
Et avant de monter sur scène,
la cuisine exotique.
Avant de monter sur scène, Martine, vous mangez quoi plutôt? Est-ce que vous mangez déjà? Est-ce que le trac vous empêche de manger?
Oui, alors ça, stress, oui, certainement. Que... le trac, ça va, j'ai pas trop le trac, mais c'est vrai que le fait d'être dans une énergie de travail intense, ouais, me coupe un peu l'appétit, donc je mange plutôt après les représentations, j'ai plus de plaisir. Par contre, à midi, c'est comme les sportifs. Moi, j'aime manger des pâtes. Alors, ça, c'est clair, parce que c'est quelque chose qui... C'est vraiment... Ouais, le métier que je fais, c'est vraiment comme un sportif. Ouais.
Martine, vous l'avez dit, en 2019, fin 2018-2019, vous proposerez La Poupée Cassée, qui est un spectacle pour un public plus jeune, qui concerne toujours Frida Kahlo, on est bien d'accord. Et est-ce que, comme de nombreux illustrateurs, vous allez changer votre regard et votre vision sur les tableaux de l'artiste pour les rendre un peu plus enfantins?
Non, il ne s'agira pas comme le spectacle que je présente ici, là, pour Saint-Georges et Le Soleil, enfin, Frida Kahlo, Autoportrait d'une femme, il ne s'agira pas de représenter ces tableaux. C'est un spectacle de Marionnette à fil. Je me suis basée sur un conte pour enfants qui s'appelle La Poupée Cassée et qui, donc la petite Frida dans sa maison bleue, et qui plutôt s'attarde au rapport à la différence, à la maladie, puisqu'elle est tombée malade petite, elle a eu la polio, donc très vite le regard des autres enfants était très difficile sur elle, donc c'est plutôt sur ça, et du coup aussi la mort au Mexique, et le rapport à la mort, déjà enfant, qu'on peut rencontrer. Donc ça, c'est, pour moi, ce sera plus basé là-dessus que sur ces tableaux spécifiquement, mais je tiens encore juste à dire ça, du coup, ce qui a amené l'envie de dessiner chez la petite Frida. Donc c'est l'arrivée de l'art aussi, hein, dans sa vie.
Oui, au moment où parce que ses premiers tableaux, les a fait sur son corset.
Alors ça, oui, à 15 ans, mais elle vient, son père était photographe, il l'amenait déjà dans ce milieu-là artistique, donc il y avait déjà quelque chose qui naissait par rapport à l'art.
On va parler de nouveau de cuisine, mais en compagnie de Nadia, puisque Nadia nous fait un journal chaque semaine, le journal d'une nulle en cuisine.
Journal d'une nulle en cuisine.
Je ne sais pas cuisiner, mais je me soigne. Et j'ai très envie de manger un ragoût de bœuf avec de la purée faite maison. Donc je me lance dans ce vaste projet. Après avoir lu la recette et fait les commissions, j'étale les ingrédients dans ma cuisine. Pour le ragoût, il faut un oignon, du bœuf pour ragoût, de la farine, du sel et du poivre, du bouillon de bœuf, 7 pommes de terre, 5 carottes, un navet et du thym frais. Et pour la purée, il faut 1 kg de pommes de terre, 2 décilitres de lait, du sel et de la muscade. Pour commencer, je fais revenir mon oignon dans ma cocotte avec un peu d'huile, j'ajoute le bœuf, un peu de farine, puis mélange et laisse cuire la viande. J'émiette ensuite un premier bouillon dans ma cocotte et laisse cuire jusqu'à ce que la viande soit brune. Pendant ce temps, je coupe mes légumes. Et j'aurais dû m'y prendre avant parce que peler et couper 7 patates, 5 carottes et un énorme navet, ça prend vraiment du temps. J'arrive enfin au bout de mon labeur et j'ouvre la cocotte, verse mes légumes à l'intérieur et sens une odeur de brûlé. Je n'y prête presque pas attention. J'ajoute un verre d'eau, un deuxième bouillon de bœuf, du sel, du poivre et quelques feuilles de thym. Pendant que mon ragoût mijote, je fais cuire les patates pelées qui me serviront pour ma purée maison. Et ça commence vraiment à sentir le brûlé. Je regarde partout et finalement ouvre ma cocotte. Ma viande, ma farine et mon bouillon du début ont brûlé en fait. Ce qui fait que j'ai une couche brune sur tout le fond de ma casserole. Super! Bon, bah je laisse comme ça. Mes patates sont cuites et je les écrase avec mon écrase-purée. J'ajoute du sel, les 2 décilitres de lait et mélange vigoureusement jusqu'à ce qu'elles ressemblent à de la mousse. J'ajoute un peu de muscade. Elle a l'air délicieuse. Je goûte. Elle l'est. Ma purée est disposée en puits avec du ragoût dedans. Ragoût que j'ai dû trier pour ne pas avoir trop de bouts brûlés. C'est l'heure de passer à table. Et c'était excellent. Moins appétissant le lendemain, puisque j'ai une intolérance qui ne me permet pas de manger de produits laitiers. Et le seul lait que j'avais pour ma purée, c'était du lait de vache.
Et c'était le journal du nul en cuisine. C'était Nadia. Martine, il est temps de se dire au revoir déjà. On retrouvera la recette du nul en cuisine demain, donc, et en tout temps pour la chronique. On retrouvera également l'interview, l'intégralité de notre interview. On retrouvera les dates et les endroits où vous jouez. Donc, Frida Kahlo, autoportrait d'une femme. On retrouvera donc tout ça sur nos sites. Martine, un immense merci d'être venue de Genève exprès pour l'émission ce soir et de nous avoir accordé votre précieux temps pour la table des gourmands. Très belle rentrée.
Merci
belle
à
soirée.
Vous. Hein. Merci à
et
vous.
Et viva Frida.
C'est claro.
La table des gourmands.